Boileau en reparle 36, le pouvoir d'être rejeté. Non, c'est pas un podcast personnel aujourd'hui. Pourtant, croyez-moi, plus que vous le pensez, c'est très, très d'actualité. Mais bon, non, ça rapporte qu'une discussion que j'ai eue. J'arrive d'un lunch avec mon ami Deep Love, alors Charles Paquin, grand concepteur publicitaire depuis déjà plusieurs années. Et puis Deep Love m'a invité, c'est ma fête jeudi. D'ailleurs, vous pouvez me souhaiter bonne fête à l'avance, ça me fait chaud au cœur. Go, gênez-vous pas, haut qu'on se garde. Non, tout ça pour dire que il me parlait des Golden Knights. Puis ce matin, j'écoutais Sylvain Bouchard au FM 93. Puis Vez, Pierre Vézina, le gars de sport, il racontait que, parce que là, les Golden Knights, ce serait une grande première dans quasiment peut-être l'histoire du... Non, peut-être pas l'histoire du sport, mais ils sont en route pour gagner la Coupe Stanley, alors que c'est une toute nouvelle franchise depuis le mois d'octobre. Donc, ce serait la première fois qu'une nouvelle franchise, en tout cas dans le hockey, c'est leur rang 1 et ils gagnent littéralement la Coupe Stanley, c'est fou. Puis ce que Vez disait, c'est que ils ont un système de jeu qui est très différent. C'est-à-dire que globalement, habituellement, les équipes ont un système, si tu veux, qui est un genre de système imposé par la direction, mais pas la boss dans le bureau, mais tu sais, le coach, etc. Il y a une stratégie qui correspond à la façon que l'équipe se comporte, etc. Puis tout le monde entre un peu dans le système. C'est comme si tu disais, quand tu rentres chez IBM, ben tu travailles à la IBM. Sauf qu'il y a du monde qui rentre chez IBM, dans la vraie vie, il serait mieux de travailler chez Apple. Sauf qu'il rentre chez IBM, c'est qu'il s'ajuste de peine et de misère à un autre système. Avec les Golden Knights de Las Vegas, j'ai-tu Los Angeles tantôt, peut-être qu'on l'aura, de Las Vegas, ça a l'air que chaque joueur est incité à plus faire son style à lui, la façon qu'il travaille lui, puis que tout le monde s'ajuste un peu, mais à l'inverse. Et puis je trouve ça très intéressant, parce que ce que Deep Love disait tantôt, c'est que les Golden Knights, c'est une équipe à 100% de rejet. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle franchise dans le sport... Ou bien, d'un côté, tu recrutes à 100% tous les joueurs, mais ça arrive à peu près pas. Ou bien, comme la mécanique le veut dans la Ligue nationale, chaque équipe doit balloter un joueur. Ça veut dire que c'est toutes des joueurs dont l'équipe dans laquelle il était l'an passé, on dit, toi, on s'en sac si tu t'en vas, c'est pas grave. Tu es le grand gagnant de notre loterie inversée. C'est-à-dire, tiens, bye, ciao, ça nous a fait plaisir. T'es bien fin, tu joues fort, tu travailles fort, on va te donner A comme effort, mais on s'en sac si tu, si tu t'en vas. C'est que c'est toute une équipe de reject qui tout à coup est en voie de peut-être gagner la Coupe cette année. Déjà, anyway, ils ont une saison de feu, puis ils sont rendus dans ce qu'on appelle le carré d'or, c'est-à-dire c'est les quatre dernières équipes. Après ça, ils vont avoir la grande finale de la Coupe Stanley d'ici à peu près deux semaines. C'est quand même hallucinant. Et ça me rappelle un livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle « David et Goliath ». Et lui, ce qu'il fait, puis ça tombe dans des affaires, vous le savez, qui m'intéressent énormément, c'est-à-dire la bonne mesure des choses. Lui, il a écrit un livre complet où ce qu'il démontrait, c'est que c'est souvent dans l'adversité qu'arrivent les grandes choses. Alors, à la rigueur, on va dire « Ah, oh, mon Dieu, là, tu m'apprends rien, je vois des slides puis des couchers de soleil sur Facebook qui n'arrêtent pas de dire ça. » Mais quand tu te mets à mesurer ces trucs-là, et le livre commence, le livre de Malcolm Gladwell commence, où est-ce qu'il explique qu'il y a un grand nombre de gens qui réussissent à l'université et par la suite dans leur carrière, qui sortent d'universités non prestigieuses, parce que il pourrait entrer dans des grandes universités américaines très exigeantes, mais serait à ce moment-là un étudiant parmi d'autres. Mais s'il tombe dans une université publique qui a quand même une qualité d'instruction puis une qualité de ce qu'on appelle le corps professoral de qualité, mais qui fait en sorte qu'il aurait été moyen à Harvard, mais très fort à l'université de New York patente, là, qu'on n'entend jamais parler, mais qui existe et qui donne des vrais cours, ben t'as un aspect de confiance qui rentre là-dedans, t'as un aspect de compétence, t'as une performance accrue. Et puis, mon ami Purple Mac m'avait déjà dit que lui, c'est un gros fan de football américain, puis il me disait que ça arrive souvent que la vedette, l'ultra-vedette au football collégial, quand il arrive dans la Ligue nationale de football, il s'effondre parce qu'il est trop habitué d'être le golden boy, puis d'être la vedette, puis d'enchaîner la cheerleaders, puis away name it. Puis quand il arrive dans la Ligue nationale, dans la football, là, la Ligue nationale de football, ben là, il y a un choc, il y a un gros, gros choc, c'est que ça marche pas. Puis moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu au secondaire, c'est genre que loin, là, mais je me souviens très bien que on fait des tests quand on est au primaire pour qu'ils nous classent dans les... En tout cas, nous autres, c'était le même, tu avais les forts, les moyens, les faibles. Et quand j'étais arrivé en secondaire 1, j'étais dans une classe de moyens, je me souviens très bien. Attends un peu, j'étais dans une classe de fort. J'étais en mathématiques, français, tout ça, j'étais dans les classes de fort. Et puis, j'étais pas fort. Moi, les sciences, ça n'a jamais été mon bag. J'ai toujours eu un esprit d'ingénieur, mais je suis pas un gars de maths appliquées, là, si tu veux. Tu sais, c'est comme de penser avec une rigueur mathématique, c'est une chose, puis avec une logique, puis avec de la résolution de problèmes, la mesure des choses. C'est tout un autre truc que de la vraie mathématique appliquée, puis de la physique. Moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis bon dans le premier, pas dans le deuxième. Puis, alors, donc, genre chimie, puis tous ces trucs-là qu'on a en secondaire, où je pense que ça commence plus tard, mais peu importe. J'étais dans des classes fortes, parce qu'au primaire, peut-être que j'avais eu des bons scores. Puis, arrivé en secondaire 1, j'étais comme le moyen de la classe. Donc, en secondaire 2, j'ai été rétrogradé dans des classes ordinaires. Donc, c'était l'école Albert Ouellet à Charlebourg, qui était en soi une école ordinaire. Là, c'était pas une école privée. C'était une école publique. Puis, j'ai eu des scores qui étaient bons. Ce qui fait en sorte qu'en secondaire 3, où je retournais une deuxième année à Albert Ouellet, je suis tombé dans les groupes forts où je suis devenu moyen. C'est carrément le même. Ça fait que je l'ai vraiment vécu. L'avantage d'Albert Ouellet et sa rapport avec le livre de Malcolm Gladwell, c'est qu'en secondaire 2, c'était vraiment une école publique que digne de ce nom, très anonyme, je me souviens de personne, c'était poche. Mais en secondaire 3, regardez ce qui s'est passé. Je vais vous montrer comment les phénomènes ont lieu. En secondaire 3, tu avais beaucoup de classes de secondaire 2 à Albert Ouellet, mais tu avais juste 5 classes de 30 personnes qui pouvaient faire le secondaire 3. Puis, il n'y avait pas de critères comme tel. Tu choisissais si tu commençais la polyvalente Charlebourg, toujours au public, pour faire 3, 4, 5, ou si tu restais à Albert Ouellet. Or, tous ceux qui ont dit « je reste à Albert Ouellet », c'était les nerds. C'était ceux comme moi qui avaient, à l'arrière, un peu peur de commencer la grosse polyvalente, puis là, on se dit « ah, il y a des bombes là-bas ». Tu sais, on n'était pas dans ce gang-là. Alors que ça donne que des nerds, c'est bon à l'école. Donc, moi, toute ma gang de secondaire 3, écoute, c'est pas compliqué, ils sont tous ramassés en sciences à l'université. Ça a tout fait des cours de génie, d'administration, biologie. Je me souviens au cégep, moi, je suis arrivé en communication à Limoilou, puis il y en avait plein qui étaient à Limoilou, puis c'était à côté en sciences pures, à côté. C'est que voyez-vous comment tes poches dans un groupe de forts. Donc, t'en arraches, mais si t'es fort dans un groupe moyen, tu rayonnes épouvantable. Et il arrive ça avec les Golden Knights, j'en suis convaincu. Puis je fais un lien avec un autre podcast que j'ai fait, rappelez-vous, au tout début, en tout cas pour ceux qui ont écouté, ou si ça vous tente de l'écouter. Ah non, c'est un article dans LinkedIn. Dans LinkedIn, j'écris des statuts un peu cossus, là, qui deviennent des petits mini-articles. Puis il y en a un qui s'appelait le CV ou la personnalité. Puis c'est exactement dans la ligne de ça. C'est-à-dire que je racontais que c'était une anecdote que ma sœur m'avait contée, bon, blablabla, me faire une histoire courte. On engage presque toujours pour le CV, puis moi, je dis qu'on devrait presque toujours engager pour la personnalité. Parce qu'en bout de ligne, on engage pour le CV, mais on congédie toujours pour la personnalité. C'est rare qu'on congédie quelqu'un en disant « t'es vraiment mauvais, t'as pas d'habilité, tu comprends pas ta job », c'est rare. Souvent, les lay-offs, c'est que quelqu'un ne fit pas dans l'équipe, on n'aime pas travailler avec lui. Puis j'avais déjà vu un article que j'arrive jamais à retrouver. J'ai fait des recherches, puis j'ai jamais arrivé à le trouver sur Internet. Dans une revue de business qui avait dit que quand il y a des coupures dans une entreprise, ça a été démontré que les premiers qui sautent, c'est si tu peux, à moins que tu sois syndiqué, mais si tu peux, c'est pas le dernier rentré ou celui qui a fait les moins bons chiffres. T'en profites pour te débarrasser de ceux qui te gazent. C'est vrai. Puis ça m'avait frappé parce que c'est tout dans la ligne de ce que je pense ce matin. C'est vraiment. La personnalité est complètement négligée, puis l'hypothèse que j'ai, c'est que si tu engages la personnalité, tu prends un bien plus gros risque, tu te mouilles bien plus. Si tu dis, regarde, j'ai vu ton CV, tu arrives d'une grosse compagnie, ouais, c'est génial, tu as un profil que j'appelle linéaire, parfait, let's go, tu rentres. C'est beaucoup plus rassurant de faire ça, parce qu'après, tu peux accuser le CV quasiment. Tu peux dire, écoute, moi, j'ai engagé quelqu'un qui était très, très bon, regarde, tu aurais fait pareil. Bien, la réponse, c'est peut-être qu'il n'aurait pas fallu faire ça. Puis peut-être qu'il aurait fallu tenir compte plus de la façon que ça merge. Et les Golden Knights, je pourrais jamais vous le prouver, mais tantôt la discussion a commencé parce que Deep Love, il me dit, crime, je les ai écoutés encore hier, ils viennent de gagner contre San Jose. Puis c'est malade de les voir jouer. C'est comme un autre game, ils jouent un autre. Puis j'ai fait, c'est-tu drôle? Vézina à radio, il a parlé un peu de ça. Puis moi, j'en rajoute une couche, je suis convaincu que le fait que c'est toute une équipe de gars qui se sont fait dire, tu peux t'en aller, nous autres, c'est pas grave si tu restes ou tu t'en vas. Au-delà du système de jeu, je suis convaincu que ça crée une motivation hallucinante, hallucinante. Y a-tu de quoi d'envie de plus valorisant que quand des gens ont pas cru en toi, puis que là, tout à coup, t'es dans un environnement où tu peux performer, puis tu leur en mets plein la tronche? C'est sûr que c'est vraiment, vraiment hot, là, tu sais. Ça fait que je trouve ça... Je trouve que ce truc-là des Golden Knights est vraiment hyper intéressant actuellement par rapport à cette réalité-là de vouloir tout le temps mettre ce qui... L'expression que je dis souvent, moi, c'est « ça rentre pas dans un fichier Excel ». En voulant dire que il y a des trucs qui se mesurent, puis qui, tu sais... Mais une fois que tu l'as mesuré, toute la job reste à faire. Là. Si je vous dis « ah, nos ventes ont décliné », ouais, OK, mais après, c'est quoi? Puis le « après, c'est quoi? » Ça rentre pas dans un fichier Excel. C'est pas des données de trouver des solutions. Trouver des solutions, c'est des idées. C'est complètement différent. Ça fait que pour trouver les bonnes idées, il faut que tu parles de la réalité. Pas toujours, mais souvent. Mais la solution, c'est une idée. Puis l'idée, elle se mesure mal. Puis c'est de l'humain. Qui va nous aider à régler tel problème? Qui est de bons conseils dans la vie? Ça, c'est un bon exemple. Il y a du monde que vous connaissez qu'on peut dire ça, c'est une personne qui a une bonne écoute et de bons conseils. Es-tu nécessairement de bons conseils parce qu'elle a une tonne d'expérience dans ça? Peut-être. Parce qu'elle a fait des études là-dedans? Peut-être. Ça se peut-tu qu'il y ait un bout qui a de bons conseils parce qu'elle a une bonne écoute, puis tu as l'impression qu'à quelque part, ton problème il a été compris, puis c'est 50% de la solution? Moi, je pense que oui. Je pense que franchement, dans ce domaine-là, de mettre l'humain de l'avant, c'est d'abord de comprendre c'est quoi une personne, les subtilités qu'il y a là-dedans, puis d'être capable de mettre le monde dans le bon contexte. Puis une équipe de hockey qui s'apprête à gagner la Coupe Stanley alors que c'est des rejets de toutes les autres, je trouve que c'est dur de trouver un meilleur exemple. Alors c'était ça que je voulais vous jaser aujourd'hui. À demain!